Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les amis, à demain pour de nouvelles aventures. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 12 avril avec le premier journal de la soirée, celui de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec un verdict.
28 ans de prison pour Nicolas Zepeda, le Chilien condamné pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise Naomi en 2016, visage fermé dans le prétoire, compte rendu dans un instant. Marine Le Pen plaide pour une révolution référendaire et un septennat unique non reconductible. La candidate du RN qui a développé aujourd'hui son programme en matière de gouvernance et d'institutions. Le détail avec le service politique. Un programme qu'entend mettre en pièce son rival Emmanuel Macron. Le candidat président était aujourd'hui sur les terres mélenchonistes du Grand Est pour railler les carabistouilles de son adversaire. On l'entendra. À suivre aussi les consignes de vote des associations caritatives pour le second tour. Pas une voix pour l'extrême droite. Les familles qui fuient le Donbass, nous serons en Ukraine. Et puis Bojo, mis à l'amende, le Premier ministre britannique sanctionné dans le scandale du Partygate.
À 18h15, un jour dans le monde, et les militaires ukrainiens qui se tiennent prêts pour une dure et sans doute sanglante bataille du Donbass, elle est imminente. Elle dépend aussi du sort de Mariupol qui n'est pas encore tombé. C'est tout cet aspect militaire qui nous intéresse ce soir et les stratégies de chacun qui vont déterminer des semaines à venir en Ukraine. Et puis à 19h20, le téléphone sonne, ça va nous faire du bien à tous de ne pas parler politique et d'accueillir pour vos questions Thomas Pesquet qui va nous raconter ses dernières premières semaines sur Terre. Qui pour lui aussi, peut-être que l'atterrissage a été un petit peu raide, peut-être que la quiétude de l'espace lui manque. On lui posera la question, ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter.
La cour d'assises du Doubs a rendu donc son verdict dans le procès Zepeda.
Oui, après 4 heures de délibéré, les jurés ont décidé de condamner Nicolas Zepeda pour l'assassinat de son ancienne petite amie japonaise Naomi Kurosaki, dont le corps reste toujours introuvable. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
En direct de Besançon, condamnation à 28 ans de réclusion criminelle.
Et il n'y a pas eu la moindre réaction à l'énoncé de ce verdict. Nicolas Zepeda est resté stoïque dans le box. Ses parents, assis à quelques mètres, ont gardé le visage baissé. Et en face, la mère et la sœur de Narumi, toujours serrées l'une contre l'autre, ont écouté la traduction du verdict en japonais sans exprimer la moindre émotion près de leur avocate, maître Sylvie Gallet.
Ils ont été entendus dans leur douleur. Bon, ils repartent avec beaucoup de peine aussi, hein, ça c'est évident, avec toujours autant de questionnements et de difficultés à admettre le silence de Nicolas Zepeda.
La cour et les jurés ont donc prononcé une culpabilité totale pour Nicolas Zepeda, meurtre et préméditation, mais une peine bien inférieure à la perpétuité qu'il encourait et qui semble avoir tenu compte des arguments développés par la défense hier. Ne le bannissez pas de notre société, avait lancé maître Jacqueline Lafont, parce qu'il n'avait que 25 ans à l'époque des faits, parce qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, et parce que l'experte psychologue entendue la semaine dernière avait estimé que le risque de récidive était nul, avait insisté maître Lafont.
Le portrait qui avait été dressé de Nicolas Zepeda, d'un monstre froid, n'a pas été retenu non plus par la cour d'assises.
Et maître Lafont précise ce soir qu'elle ne sait pas encore si son client va faire appel.
Jean-Philippe Degnaud en direct de la cour d'assises du Doubs avec François Rivalan. Un nouveau scandale de violence sexuelle au sein d'une grande école française après Centrale Supélec, Polytechnique dans la tourmente. Une enquête interne menée auprès de plus de 2000 élèves révèle que près d'une étudiante sur 4 déclare avoir été victime d'agressions sexuelles. 11 d'entre elles disent avoir été victime de viol ou de tentative de viol. La direction a fait un signalement auprès de la justice.
Après le pouvoir d'achat, Marine Le Pen joue la carte de la démocratie.
La candidate du Rassemblement National était en déplacement aujourd'hui à Vernon dans l'Eure. Conférence de presse sur son programme en matière de gouvernance et de pratiques démocratiques. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Marine Le Pen qui entend rassurer les électeurs de gauche. Hein.
Oui, Marine Le Pen avait un message. Le vrai démocrate n'est pas celui que vous croyez. Emmanuel Macron, un bilan catastrophique en termes de démocratie, juge la candidate. Alors que propose-t-elle? Une révolution référendaire d'abord qui permettrait de faciliter les référendums d'initiative citoyenne ou populaire.
Je suis absolument convaincue que si le référendum d'initiative citoyenne avait existé, il n'y aurait probablement pas eu les Gilets jaunes. Je pense que c'est vraiment un outil de pacification du débat démocratique.
Marine Le Pen, grande démocrate, même au point, ironise-t-elle, de laisser le peuple démanteler ses propres réformes.
Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle au cas par cas grâce au RIP. Peut-on proposer une mesure plus démocratique que celle-là ?
Autre mesure, l'instauration de la proportionnelle pour les législatives, le septennat non renouvelable. Mais comble d'une conférence sur la démocratie, la séance s'achève sur un accrochage avec la presse, alors que la candidate fustigeait quelques minutes avant le rapport d'Emmanuel Macron aux médias. Un confrère rappelle à Marine Le Pen que les journalistes de l'émission Quotidien sont toujours bannis de ces événements.
Ah oui, voyez, je suis chez moi, c'est moi qui décide.
Épisode dont la Macronie s'est aussitôt emparée. Derrière le sourire affiché, le mépris total de la liberté d'expression, tweet Christophe Castaner.
Élodie Forêt, Marine Le Pen qui a rendu public aujourd'hui une nouvelle affiche de campagne. Elle est assise devant un mur blanc, les mains posées sur un bureau, comme son adversaire sur sa photo officielle de président. On peut y lire pour tous les Français. Et puis la candidate RN qui indique aussi qu'elle ne prendrait pas dans son gouvernement ni sa nièce Marion Maréchal, ni Éric Zemmour si elle était élue le 24 avril prochain. Face, Emmanuel Macron continue de battre campagne en province. Il était hier dans le Nord-Pas-de-Calais sur les terres lepénistes, aujourd'hui à Mulhouse et Strasbourg qui ont voté largement Mélenchon. Lui aussi cherche à capter les réserves de voix des insoumis. Il s'est dit prêt à bouger sur la retraite à 65 ans. On en saura plus dans les jours qui viennent, dit-il. Le président candidat qui soigne donc sa gauche, mais qui veut aussi déconstruire le programme de son adversaire. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Sébastien.
En direct de Châtenois dans le Bas-Rhin, Emmanuel Macron avait promis la castagne, il est passé cet après-midi à l'attaque en rafale.
Elle l'accuse, oui, d'entretenir le flou sur sa réforme des retraites, 64 ou 65 ans. Lui considère qu'elle vend du rêve à ce sujet.
C'est sûr que si on arrive à une élection présidentielle en disant « je n'ai que du sucre et du miel, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous, pour reprendre les beaux vers, tout va bien, c'est un poème, ça n'est pas la réalité ».
À deux pas de l'hôpital de Mulhouse, tant frappé par le Covid, des blouses blanches contre les barrières, il refait le film. Et si Madame Le Pen avait gagné en 2017 ?
Elle allait soigner les gens à la chloroquine, elle allait vacciner massivement avec un vaccin russe, dont même l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il n'était pas efficace. Et donc, il ne faut pas simplement suivre le vent et être dans la démagogie. Pendant les crises, ça peut être fatal.
Où en serions-nous si elle avait eu à gérer le Covid-19 ou la guerre en Ukraine, se demande le tract du candidat qui sera diffusé demain à 2 millions d'exemplaires. Emmanuel Macron s'en prend aussi au déplacement de son adversaire.
C'est un village Potemkin permanent. Ils ne se déplacent jamais, ils ne vont jamais voir leurs opposants. Ils vont en province, chez leur soutien, uniquement. Ils vont dans des hôtels faire des conférences de presse. Ils vont jamais voir les gens qui sont pas d'accord avec eux.
Comprenez-moi, c'est tout l'inverse. Il est d'ailleurs en ce moment ici, sur la place du village, dans un énième bain de foule, avant de rejoindre Strasbourg pour un meeting sur l'Europe. Dernière cartouche.
Bon, Madame Le Pen raconte, comme d'habitude, des carabistouilles. Pourquoi ? Elle explique qu'elle paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Il vient donc...
Ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire.
Il vient donc de répéter devant nous ses principales attaques du débat d'entre-deux-tours dans 8 jours.
Maxence Lambrecq avec Geoffrey Marianne en direct de Châtenois dans le Bas-Rhin. Emmanuel Macron qui engrange de nouveaux soutiens depuis ce matin, avec d'abord ceux qui appellent directement à voter pour lui au second tour, l'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui appelle même à ce que la droite se rassemble autour d'Emmanuel Macron. Cela m'honore et m'oblige, a réagi le candidat président. Ce soutien divise toutefois chez les LR. Julien Aubert, par exemple, votera blanc. Et autre appel à voter pour Emmanuel Macron, Lionel Jospin et les centristes de l'UDI. Et puis il y a les syndicats et les associations où le discours est moins direct. La CGT reprend l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Pas une voix pour l'extrême droite, mais laisse ouvert la possibilité d'une abstention ou d'un vote blanc. Qu'en est-il du côté des associations caritatives ? Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Là aussi, on brandit le barrage au vote Le Pen.
En effet, si Marine Le Pen accède au pouvoir, ces associations redoutent de voir les valeurs qu'elles défendent mises à mal. La Fondation Abbé Pierre, par exemple, milite pour l'accueil des plus démunis, quelles que soient leurs origines. Et selon l'ONG, ce principe de solidarité inconditionnelle serait clairement menacé par la préférence nationale prônée par Marine Le Pen. Même crainte chez ATD Quart Monde, qui appelle aussi à voter donc contre l'extrême droite et pour Emmanuel Macron, sans pour autant approuver le bilan du président sortant en matière de lutte contre la précarité. Marie-Alette Grard est la présidente d'ATD Quart Monde.
Nous voulons une société qui ne laisse personne de côté. Et ce que nous voyons dans les actes du Rassemblement National, dans les municipalités où ils sont, dans le programme de Marine Le Pen, nous voyons bien qu'ils préfèrent laisser des personnes sur le bord de la route. Leur programme est quand même centré sur la discrimination, sur le repli sur soi, sur le rejet de l'autre. ça met vraiment en péril le vivre ensemble, notre démocratie même. Emmanuel Macron doit entendre notre message de lutte contre la pauvreté qui doit être une priorité. Ce n'est ni une approbation de son bilan, ni une adhésion à son programme.
D'autres associations caritatives préfèrent ne pas prendre parti pour le second tour de la présidentielle, comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, qui mettent en avant leur neutralité politique.
Et Yann Gallic, la campagne du second tour s'est aussi retrouvée sur franceinter.fr.
48e de jour de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine dit poursuivre calmement son offensive.
Le président russe en conférence de presse aujourd'hui à l'autre bout du pays, en Extrême-Orient, le maître du Kremlin qui affirme qu'il veut agir de manière harmonieuse en limitant les pertes sur les massacres de civils à Boutcha, démenti catégorique. C'est un fake, une intox selon lui. Les objectifs de guerre restent les mêmes, se concentrer sur le Donbass. Le Donbass que fuient des milliers de civils ukrainiens sous la menace d'une offensive imminente. Ils prennent la route vers l'ouest du pays, le plus souvent en voiture. Nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot se sont arrêtés sur le bas-côté entre Kiev et Jytomyr. Leur reportage.
Sur une aire d'autoroute en direction de l'ouest de l'Ukraine, peu après Kiev, un jeune homme en train de réparer sa voiture et à l'avant, un bébé dort.
Vous allez jusqu'où là?
Rovna.
À Rivne. Vous êtes parti quand de Slavyansk?
3 jours назад.
Il y a 3 jours. Pourquoi vous êtes parti?
Les bombardements ont repris à Kramatorsk. Maintenant, c'est à Slavyansk et sa banlieue. On fuit la guerre.
Elle est où votre épouse avec les 3 autres enfants?
Café.
Ma grande fille, c'est Anastasia. Elle, c'est Mariana. Et mon fils, c'est Yevgeny.
Pourquoi vous êtes parti?
Nous n'avons pas d'autre choix. Mes enfants doivent rester vivants.
Comment vous voyez votre avenir proche?
Il faut que les enfants puissent consulter un psychologue. C'est la priorité.
On a vu des missiles.
Je dormais sur le lit de papa Roma. Maman m'a attrapée et m'a habillée très vite et je n'avais même pas de chaussettes. Nous avons été obligés de partir à Rivne.
Voilà le reportage de Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot. Ajouteront que selon le maire de Mariupol, ce sont environ 21 000 civils qui ont été tués dans cette ville depuis le début de l'invasion russe. En bref, à l'étranger, une attaque dans le métro de New York. C'était à 8h30, heure locale, l'heure de pointe. Dans le quartier de Brooklyn, 13 personnes au moins ont été blessées par balles. Des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Un suspect actuellement recherché portant un costume d'ouvrier et un masque à gaz. Boris Johnson rattrapé par la patrouille. Le Premier ministre britannique va recevoir une amende de Scotland Yard sanctionnée dans l'affaire du Partygate. Ces fêtes alcoolisées organisées au 10 Downing Street au mépris des règles sanitaires pendant les confinements. L'opposition appelle déjà à sa démission. Les précisions de Laura Calmus à Londres.
Jamais un chef du gouvernement britannique n'avait été sanctionné en exercice pour avoir enfreint la loi. L'amende s'élève à une soixantaine d'euros seulement, mais pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Alors que le pays était confiné, endeuillé par le Covid, le Premier ministre qui fixait les règles ne les a pas respectées, selon la police. Une erreur et vraisemblablement un mensonge aussi. En décembre dernier, Boris Johnson avait déclaré devant le Parlement qu'il avait suivi les restrictions mises en place. Au total, plus de 50 amendes ont été émises, selon la police. La femme du Premier ministre, Kerry, ainsi que son ministre des Finances, Rishi Sunak, vont également être verbalisé. Le chef du parti travailliste s'est empressé de réagir dans un tweet. Il appelle à la démission de Boris Johnson. Selon lui, les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner. Le scandale avait plongé Boris Johnson dans une crise sans précédent. Oublié un temps, notamment avec la guerre en Ukraine et son rôle sur la scène internationale, le Partygate est en train de refaire surface. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et puis un mot de sport pour terminer avec France-Slovénie ce soir. Une dernière marche à franchir pour les footballeuses françaises. Un match nul suffit aux Bleus pour valider leur billet pour le Mondial de foot féminin en 2023. Coup d'envoi à 21h10. Nous y serons, c'est au Mans, dans le journal d'Hélène Fili à 19h.
Merci beaucoup Sébastien Logénie et à tout de suite bien sûr pour votre deuxième travail. Grâce à vous, dans Sous les radars, nous saurons pourquoi on donne des cours de natation en ce moment au Nicaragua. Ce soir, on regarde les forces militaires terres des Ukrainiens et aussi des Russes alors que la bataille du Donbass est imminente, que Mariupol, qui n'est pas encore tombée, est bel et bien en sursis. Vous retrouverez aussi les notes vocales d'Ukraine et un reportage en Pologne aussi où les ONG mettent en garde contre l'exploitation, la mise en danger parfois des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes. Et puis au téléphone sonne, on est heureux de vous changer les idées, c'est avec Thomas Pesquet que vous dialoguerez. On lui demandera s'il veut remonter là-haut le plus vite possible pour retrouver un peu la douceur de la pesanteur, ce qu'il fait de sa vie aussi en ce moment. À vos questions, en tout cas, il y aura du monde en standard et c'est tant mieux, ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Élodie Calac, bonsoir. Encore doux demain.
Oui, bonsoir à tous. Demain matin, il fera souvent 6 à 13 degrés. Demain après-midi, on ira jusqu'à 24 degrés à Strasbourg, 23 à Lyon et Montélimar, 22 à Nancy, 20 degrés à Reims, Rennes, Bourges ou Ajaccio, 18 degrés à Lille et à Paris, 16 au Havre, à Tarbes et seulement 15 degrés à Perpignan.
Avec de la pluie aussi ?
Oui, de la pluie du sud-ouest vers la frontière belge en passant par la région parisienne. Elles seront quand même plus éparses l'après-midi, sauf au pied des Pyrénées où il neigera au-dessus de 2200 mètres. En allant vers l'est, un soleil voilé. Demain, il se montrera davantage tout de même des Alpes à la Corse le matin et jusqu'au nord-est l'après-midi. Et puis sur le nord-ouest, jusqu'à la côte d'Opale, un ciel plus variable s'installera avec des éclaircies plutôt belles sur la Bretagne, sur la Normandie. Il faudra quand même composer avec quelques brouillards le matin et parfois une averse l'après-midi.
Allez, Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.